soit, merci Pascal de m'avoir invité à parler dans ce lieu prestigieux. On va parler, donc le thème du séminaire c'était l'hypnose d'hier et d'aujourd'hui, on va parler de l'hypnose d'aujourd'hui, peut-être de demain également, et puis voir un petit peu ce que l'on sait du fonctionnement du cerveau pendant la transe hypnotique. Voilà, donc je vous ai fait un petit rappel pour vous dire un peu les outils qu'on utilise en médecine et en neurosciences pour voir le cerveau humain penser. Donc on peut utiliser l'électroencéphalographie de haute résolution, la magnétoencéphalographie, le PET scanner, l'IRM fonctionnel. Donc je vais vous montrer un petit peu des images de ces machines et comment elles fonctionnent. L'électroencéphalogramme, c'est la technique la plus ancienne, donc 1929. En fait, on met des capteurs à la surface du cuir chevelu d'un patient après avoir humidifié le cuir chevelu et on mesure des différences de potentiel à la surface du cuir chevelu. Donc on a fait une cartographie comme ça de l'activité cérébrale, assez indirecte mais très intéressante parce que cette technique-là a une résolution spatiale tout à fait, résolution temporelle tout à fait excellente par rapport aux autres techniques. La magnétoencéphalographie, c'est une technique plus récente, extrêmement coûteuse, il n'y a que deux ou trois machines en France installées. C'est le même principe que l'électroencéphalogramme, au lieu de mesurer des différences de potentiel, on va mesurer des différences de champ électrique à la surface du cuir chevelu. Le PET scan, TEP scan, donc tomographie par émission de positons, c'est une technique qui a été très employée au début des neurosciences, c'était les premières images fonctionnelles du cerveau. L'inconvénient de cette machine, c'est que la résolution spatiale n'est pas terrible, les images sont assez grossières. Et l'autre inconvénient, c'est qu'on est obligé d'injecter un produit radioactif aux patients. Et donc, quand on fait des études chez des sujets sains ou avec des jeunes femmes, par exemple, c'est assez compliqué, et notamment s'il y a des grossesses méconnues. L'imagerie par résonance magnétique, ça c'est le domaine que je connais un petit peu plus. Je suis médecin radiologue, c'est ma discipline au départ. La technique est apparue dans les années 70, la partie fonctionnelle, donc analyse du fonctionnement du cerveau, est apparue dans les années 80. Donc l'idée c'est de détecter des modifications de flux au niveau du cortex cérébral qui correspondent à des activations du cerveau lorsqu'on en fait une tâche mentale. Donc c'est ça, donc l'IRM sert à avoir des images anatomiques intéressantes. Vous pouvez également étudier le métabolisme d'un organe grâce aux techniques de spectro-IRM, et vous pouvez étudier également le fonctionnement d'un organe, et notamment le cerveau, avec la technique d'IRM fonctionnelle. Bon, ça c'est un petit diagramme qui montre un petit peu les différentes performances de résolution spatiale et temporelle des différentes techniques. L'électroencéphalographie étant l'outil le plus adapté pour capter la conscience, le phénomène de conscience.
C'est quoi la résolution?
Résolution temporelle, c'est la résolution avec laquelle vous êtes capable d'analyser un événement. Alors pour la pensée, c'est en millisecondes. En millisecondes, donc de 0 à 400 millisecondes, c'est les étapes de la conscience. L'IRM, il faut une minute pour obtenir des images. Donc vous voyez, la résolution temporelle est bien, bien différente. Alors, il y a des résolutions temporelles, résolution spatiale. Donc l'IRM, c'est la technique la plus performante parmi toutes les techniques, puisque vous avez des détails de 1 mm analysables au niveau du cerveau. Avec les techniques, donc oui, on fait des IRM corps entier maintenant, sans problème. Avec les machines modernes, voilà comme cette machine qui est installée au centre Neurospin de Saclay, la résolution spatiale descend à 400 microns, donc on obtient beaucoup plus de détails du cerveau en augmentant la puissance de l'aimant que l'on utilise, puisque l'IRM, le principe, c'est un gros aimant supraconducteur. Alors étudier l'hypnose, les effets de l'hypnose au niveau du cerveau, est-ce que c'est voir les effets des suggestions sur le fonctionnement cérébral? Est-ce que c'est étudier une forme particulière de la conscience? Est-ce qu'on va voir ensemble si vous voulez bien? Voilà, donc là, Jean Becquiot, qui est le médecin avec lequel je travaille, qui m'a formé à l'hypnose. Et donc, évidemment, on ne sait pas trop ce qui se passe dans le cerveau de la patiente pendant la séance d'hypnose. Alors l'idée c'est que la science est aux portes de la conscience, c'est-à-dire que les neurosciences sont en train de décortiquer les différents processus de la conscience, et on en est au tout début. Donc c'est vraiment la rencontre intéressante de psychologues, de neurologues, de mathématiciens et de radiologues. Alors, combien y a-t-il de formes physiologiques de la conscience? Eh bien, on connaît la conscience des cinq sens. À l'heure actuelle, on a décortiqué uniquement la conscience visuelle. Ça, c'est les travaux de Stanislas Dehaene. La transhypnotique, on en est au tout début. Méditation, orgasme, accouchement, conscience du fœtus, du nourrisson, conscience en fin de vie. On a très très peu de données, quasiment pas de données en neurosciences. Alors ça, je vous montre, c'est un schéma qui a été proposé par Jean-Pierre Changeux et Stanislas Dehaene dans les années 98, qui s'appelle Espace neuronal de travail, et qui est une modélisation mathématique des différents processus de la conscience, qui a l'intérêt, outre d'être un modèle, c'est que de fonctionner et de ne pas avoir été remis en cause jusqu'à présent. C'est-à-dire toutes les découvertes récentes des neurosciences collent avec ce modèle-là.
Est-ce que tu peux le détailler un petit peu, parce que...
Alors en fait, on a peut-être une autre... Je n'en ai pas d'autre. Si vous voulez, l'idée c'est qu'il y a un processeur central qui est connecté avec des axones à fibres longues, qui sont la spécificité du cerveau humain et du cerveau des primates évolués par rapport aux autres espèces de mammifères. Et donc ce processus central est connecté avec d'autres processus périphériques qui fonctionnent à la fois en parallèle et en série. Jusqu'à présent, on avait donné des modèles du cerveau de type ordinateur, etc., qui ne fonctionnent pas du tout, qui ne sont pas du tout adaptés en fait, au cerveau, au mode de fonctionnement du cerveau humain. Et ce processeur-là donc permet de faire des prédictions, et jusqu'à présent, tous les travaux de recherche qui ont été faits confirment en fait, que ce système-là fonctionne. Voilà. Alors, je vous montre un exemple tout de suite. Alors, vous voyez la conscience, hein, donc il faut... Il y a un embrasement cérébral qui se produit, donc on a les images maintenant. Le traitement subliminal de l'information, donc vous voyez un objet, mais vous n'en avez pas conscience. Et puis ici, la force est suffisante, mais il n'y a pas de compétition centrale avec d'autres stimuli, donc c'est la préconscience, donc c'est juste avant ce processus-là. Donc ça, c'était sa conférence au Collège de France au mois de février. Il a fait 6 conférences tout à fait passionnantes sur ce domaine-là. Hein, donc, on voit bien le processeur, si vous voulez, le processus de la conscience. Hein, on part d'une image qui est vue, mais non consciente, et on va obtenir la conscience visuelle de cette image par un système de connexion avec d'autres zones à l'intérieur du cerveau. Voilà, ça vous intéresse, vous allez sur le site du Collège de France ou le site de l'unité www.unicoq.org. Alors Stanislas Dehaene, il n'est pas médecin, il n'est pas physiologiste, il est mathématicien. Donc en fait, il n'est pas tout le monde, parce qu'en fait, il amène des idées originales en neurosciences avec sa fonction de mathématicien. C'est vraiment un spécialiste mondial du traitement de la lecture au niveau du cerveau et du calcul mental. Alors, combien de formes pathologiques de la conscience? Il y a l'épilepsie, les drogues. Alors, les anesthésistes connaissent bien, puisqu'ils sont capables de nous endormir avec leurs drogues. Les syndromes confusionnels, et puis tous les comas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le modèle que je vous ai montré, on commence à voir les premières applications cliniques chez des patients en coma. Donc, on commence à comprendre un peu mieux comment décortiquer les différentes formes de coma, état végétatif, etc. Et ça, c'est un progrès clinique majeur hein, pour les services de réanimation, parce qu'on commence à y voir plus clair. Et notamment pour ces personnes comme ce monsieur-là, hein, qui était dans le coma, donc impossible de communiquer avec l'environnement, hein, qui n'ouvrait pas les yeux, qui ne bougeait pas du tout, et en fait, qui était parfaitement conscient. Et donc, il a fallu lui faire une IRM fonctionnelle pour se rendre compte qu'en fait, il comprenait tout ce qu'on lui disait, mais il ne pouvait ni ouvrir les yeux, ni bouger le moindre doigt, rien du tout. Et pas parler, bien entendu. Donc l'idée, c'est qu'avec ces outils-là, on commence à avoir des applications très pratiques de façon justement à repérer ces gens qui ne sont pas dans le coma, qui sont parfaitement conscients, mais qui n'arrivent pas à communiquer avec nous. Donc on commence à communiquer à travers les machines avec ces personnes. Alors on va voir le fonctionnement du cerveau pendant l'hypnose lors de phénomènes douloureux, lors de la remémorisation d'un souvenir agréable, lors de la musique, de la perception des couleurs, lors de tests psychologiques qui créent des conflits à l'intérieur du cerveau. La motricité, ça c'est notre domaine de recherche un petit peu plus particulier, Jean Becquiau et moi, avec l'équipe de l'hôpital de Garches. Et puis les phénomènes de synesthésie, je vous expliquerai ce que c'est. Alors, quelques rappels sur l'intégration corticale de la douleur. La douleur, c'est vraiment le phénomène subjectif. Hein. C'est très difficile de décrire une douleur, et puis il n'y a que celui qui souffre, finalement, qui se rend compte de ce qui se passe. Par contre, c'est très objectif au niveau du cerveau. Alors, l'idée d'étudier la douleur, ça remonte à loin. Vous voyez, René Descartes a donné les premiers modèles de réflexes nociceptifs qui étaient tout à fait intéressants, intelligents. Il pensait que c'était un système pneumatique qui était commandé par la glande pinéale. Mais bon, c'est le premier à avoir fait ce genre de théorie. Alors, dans la douleur, il y a un aspect multidimensionnel, hein, donc l'aspect sensoriel, l'aspect affectif et l'aspect cognitif. Et ces trois composantes correspondent à trois zones du cerveau différentes. Donc la composante sensorielle, c'est identifier la douleur, donc c'est l'insula et le cortex qui sont des régions spéciales du cerveau. Composante émotionnelle, donc c'est signaler l'inconfort, ça c'est le rôle du cortex singulier antérieur. Et pour la composante cognitive ou comportementale, donc interpréter la douleur et modifier son comportement, c'est-à-dire je retire la main de la flamme, c'est le rôle du cortex préfrontal et prémoteur. Alors, du coup, on parle de matrice corticale de la douleur, c'est-à-dire que lors d'un stimulus douloureux, il n'y a pas une zone du cerveau qui s'allume, mais plusieurs, trois régions cérébrales. Donc ça donne ces images-là, dans la matrice corticale de la douleur. Les premières personnes à avoir démontré cette matrice, c'est les Français, que tu connais bien, Chantal, Roland Perron et Bernard Florent. C'est des neurologues de Saint-Étienne, et c'est les premiers en PET scan qui ont montré, dans les années 90, la matrice corticale de la douleur. Alors, comment moduler la douleur? Eh bien, les anesthésistes connaissent bien l'hypnose au bloc opératoire. Ça, c'est Marie-Elisabeth Fémont-Ville dans son service d'anesthésie à Liège, qui fait des interventions en sédant de l'hypnose. Elle a montré un truc bête. Hein, oui, l'hypnose permet de diminuer la sensation douloureuse de 50%. Et ça fait mieux que la distraction. La distraction, c'est quand vous essayez de détourner l'attention de quelqu'un. Un enfant, par exemple, dit « Ah, regarde le petit oiseau là !» ou toussez, et puis pendant que vous toussez, vous faites votre ponction. Ça, c'est la distraction. Donc, vous voyez que l'hypnose est bien plus efficace que la distraction. Voilà, donc le seul produit anesthésique sans danger, c'est l'hypnose, hein, parce qu'évidemment, là, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'effet secondaire. Hein. Alors du coup, nous, on pense que les professionnels de santé qui prennent en charge des patients douloureux, donc anesthésie, cancérologie, soins palliatifs, gestes invasifs, doivent se former à l'hypnose. Et en effet, pourquoi se passer d'une méthode naturelle, efficace, peu coûteuse et qui n'a pas d'effet secondaire? En radiologie, on a une dame qu'on aime bien qui s'appelle Elvira Lang, qui fait sa radiologie interventionnelle, toutes ses ponctions, ses biopsies osseuses, à l'hôpital de Boston, sous hypnose. Et on en reparlera à la fin, parce que j'ai rajouté quelques petites diapositives de linguistique voilà. Pour la spécialiste, les spécialistes. Donc, qu'est-ce qu'on arrive à faire pendant l'hypnose? Eh bien, on arrive à moduler l'intensité de la douleur, donc avec des suggestions adaptées à l'intensité de la douleur. Et donc, on obtient une diminution d'activation de la zone S1, donc cortex somatosensoriel. Et on arrive également à moduler le désagrément de la douleur, et donc en obtenant une diminution d'activation du cortex singulier antérieur. Donc, c'est cette zone profonde du lobe frontal. Alors, c'est ce monsieur-là qui a montré le premier ses travaux dès 1997. Hein. Pierre Hinville, qui est un professeur de neurosciences canadien. Voilà. Alors, ce qu'on fait en hypnose, c'est qu'on peut le faire sous IRM fonctionnel, contrôler la douleur en temps réel. On demande au patient, à un patient sain, d'imaginer que sa douleur correspond à une flamme, et on lui demande de diminuer la puissance de la flamme. Et en fait, cette flamme, ça correspond à la zone d'activation du cerveau, la zone douloureuse. Et en fait, les patients arrivent très vite, douloureux chroniques ou au sujet ça, à contrôler les phénomènes douloureux et à obtenir une diminution de cette flamme. Alors, c'est des dispositifs très compliqués et très coûteux, mais on sait faire ça en IA fonctionnel. C'est exactement la même chose que pour l'hypnose. L'hypnose est-elle une forme de placebo, hein ? Vous connaissez tout ce que fait placebo. On vous donne une pilule qui contient rien, puis vous obtenez 30% entre 10 et 30% d'amélioration. Et ça marche deux fois mieux si vous êtes un enfant qu'un adulte. Hein. Donc on peut se poser la question, est-ce que l'hypnose, c'est comme l'effet placebo ? Et donc en fait, l'analgésie placebo active des zones du cerveau qui sont différentes de celles que l'on voit activées pendant l'hypnose. Et surtout, c'est une analgésie qui est indépendante du système des récepteurs aux opiacés. Vous savez qu'à l'intérieur du cerveau, il y a des morphines naturelles, endorphines. Et donc le placebo est un système relié au système des endorphines, alors que l'hypnose est un système indépendant du système des endorphines. Voilà. On le sait depuis 83, donc ça c'est un résultat intéressant, ancien. C'est une photo de Bernard Laurent qui m'a prêté, là c'est les cartographies qu'on obtient des récepteurs aux opiacés à l'heure actuelle. Se remémorer un souvenir agréable sous hypnose. Les gens qui connaissent l'hypnose, il y en a combien dans la salle qui ont déjà fait au moins une séance ? Juste une. Hein. Non. Ça va, pas mal. ils se savent que se souvenir d'un souvenir, se remémorer un souvenir sous hypnose, c'est très différent de quand on n'est pas sous hypnose. Et vraiment, on a l'impression de revivre le souvenir. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Bon, on va voir des activations cérébrales. Diverses, qui sont différentes de l'état de veille classique avec des zones de désactivation, donc précuneus et du cortex singulaire postérieur. Et donc ça rend compte de l'idée de revivre le souvenir plutôt que de se souvenir. Donc c'est beaucoup plus riche, c'est vrai. Voilà, donc ça, c'est les travaux de Marie-Elisabeth Fémont-Leville et Stephen Morris. Stephen Morris, c'est le neurologue de Liège qui travaille avec Marie-Elisabeth Fémont-Leville et qui a détecté le monsieur dans le coma, vous savez, qui n'était pas du tout dans le coma en fait, qui était parfaitement conscient. Donc c'est des gens qui travaillent beaucoup sur l'hypnose et le cerveau. Qu'est-ce que c'est la conscience ? Donc l'anesthésie, donc ils travaillent sur le moment où on bascule dans l'inconscience quand on injecte un produit anesthésique. Et ils travaillent évidemment sur les comas. C'est un des meilleurs spécialistes mondiaux avec Stanislas Dehaene et Lionel Nakache de la compréhension du cerveau des patients dans le coma. Vous pouvez également moduler la perception des sons sous hypnose. Ça, c'est une étude de 98 qui montre en fait une activation identique du cortex singulaire antérieur quand un sujet écoute de la musique, donc en direct, si vous voulez, ou s'il se rappelle cette musique sous hypnose. Et par contre, vous n'obtenez pas cette activation du cerveau si vous êtes en éveil simple et que vous essayez de vous souvenir du morceau de musique. Donc ça donnait ces images-là. Pour ceux qui veulent des références, je vous laisserai un exemplaire de diapo qui peut récupérer les informations qui vous intéressent. Il y a une chaise là. Il y a une chaise juste là. Vous pouvez également moduler la perception des couleurs sous hypnose. Le principe, c'était de demander à des patients de regarder des panneaux de couleurs et des panneaux de noir et gris et de blanc. Et ça active des zones du cortex occipital, donc la région de la vision, si vous voulez, distincte. Donc, quand on regarde le noir et blanc et quand on regarde la couleur, ce n'est pas les mêmes régions qui s'activent. Et si vous demandez à un sujet en éveil normal d'imaginer que le panneau coloré est gris, les zones de la couleur restent actives. Le même sujet en sous-hypnose, si on lui demande d'imaginer que le panneau coloré est gris, on obtient une désactivation de cette zone du cortex cérébral. L'hypnose peut déclencher des épisodes de synesthésie, c'est une étude très récente de 2009, hein, toute récente. Alors la synesthésie, vous voyez ce que c'est ou pas trop ? Il y en a qui connaissent. Hein, bon. C'est, vous savez, il y a des gens, ils associent des couleurs avec des chiffres, et ils ne le font pas exprès, et souvent ils calculent très très bien, ils sont très forts en calcul mental, il y a des autistes savants qui savent faire ça aussi. Et donc la question, le débat, c'est est-ce que c'est des connexions neuronales supplémentaires entre certaines zones du cerveau, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut apprendre en dehors de toute prédisposition génétique ou en dehors de tout autisme. Ouais, donc cet article de Roy Cohen-Kadosh permet de trancher entre les deux grâce à l'hypnose. C'est-à-dire qu'en fait, on prend des sujets qui n'ont aucune expérience de synesthésie particulière, qui ne sont pas capables de coupler un sens avec un autre sens, hein, naturellement, et on leur fait des suggestions post-hypnotiques de reconnaître, de coupler certains chiffres avec certaines couleurs. Et donc, en fait, ils font état d'expériences similaires aux synesthètes. Et puis surtout, quand on leur fait faire le test, des tests de reconnaissance de couleurs, de chiffres colorés sur des fonds de couleurs, ils échouent exactement comme les synesthètes. Oui, c'est ce genre de choses. Ils n'arrivent pas à voir tel chiffre ou telle couleur sur tel fond d'écran. Voilà, donc du coup, l'hypnose a permis de trancher entre les deux hypothèses. Hein, ce n'est pas du tout une faculté génétique ou des connexions neuronales supplémentaires. C'est quelque chose qu'on peut apprendre à faire. Ça, je vais passer parce que c'est pas trop confirmé. Tu veux que j'en parle, hein?
Oui, je peux.
Alors l'idée, c'est est-ce qu'il y a des particularités anatomiques des gens qui sont très faciles à hypnotiser. Alors, dans la population, il y a les très faciles. Il y a les faciles à hypnotiser, ça c'est la grande majorité, et puis il y a les difficiles à hypnotiser, c'est un tout petit nombre de patients. Alors là il y a une étude dans la revue Brain, une étude très sérieuse, mais bon, depuis on n'a pas trop vu de confirmation de cette étude, qui montrait que cette zone-là du corps calleux c'est le pont de substance blanche qui fait communiquer les deux hémisphères, était un peu plus épaisse chez des gens qui étaient faciles à hypnotiser. Mais bon. Nous, on n'accorde pas trop d'importance à cette étude-là, parce que
c'est... Il lève le gros, c'est le menteur, ça a été prouvé.
Pardon ?
Ceux qui montrent beaucoup, ils lèvent le gros, la partie antérieure du corps
calleux. Ah oui, mais c'est pas la même. Voilà, donc le gros corps calleux des sujets hypnotisables. Bon, il y a des gens qui ont des scléroses en plaques, qui ont quasiment plus de corps calleux et qui font de l'hypnose sans problème. Donc, vous voyez ce que je veux dire, diminution des conflits à l'intérieur du cerveau humain, donc ça c'est un truc amusant, il fallait y penser. C'est donc Amir Ras, qui est un professeur de psychologie américain, qui a l'idée de faire le test de Stroop pendant l'hypnose. Vous voyez ce que c'est le test de Stroop? C'est un truc de psychologue, ça. Alors je vous montre. Là, vous êtes capable de dire quelle est la couleur. Tout le monde y arrive. Sauf un daltonien, comme moi. Là, vous êtes capable de dire quel est le mot qui est écrit. Hein, là, c'est pareil, pas de souci particulier. Là, en fait, il faut dire quelle est la couleur de l'encre. Alors, le piège, c'est que le mot indique une couleur qui n'est pas la couleur de l'encre. Vous voyez l'astuce? Et donc, quand vous augmentez un peu la cadence, alors vous pouvez taper sur Internet test de Stroop, et puis il vous propose de faire le test en ligne. Hein. Vous verrez que quand la cadence augmente, rapidement, vous faites une erreur sur deux. Donc, vous trompez une fois sur deux. Voilà. Ça crée un conflit, ouais, entre la perception de la couleur et le conflit entre la perception du mot. Hein, et le cerveau, il n'aime pas trop ça. Il est capable de faire un seul truc à la fois, le cerveau. Et donc, surprise, hein, les gens qui sont faciles à hypnotiser sous l'hypnose, ils ont des très bons résultats dans le test de Stroop, alors que les autres, ils continuent à se tromper une fois sur deux. Un peu comme si ça fluidifiait le fonctionnement. Ça... Voilà, donc il a fait une étude très sérieuse, hein, avec l'IRM fonctionnel, il a montré des zones du cerveau qui s'activent, etc. Et puis ça a même fait l'objet d'un article dans le New York Times en 2005. Hein. Bon, en France, on n'a pas beaucoup d'articles comme ça. Étude de la motricité sous hypnose, ça c'est notre domaine un petit peu à Garches, nous aussi, en France. L'idée, c'était de comprendre un petit peu. Bon, ceux qui font de l'hypnose savent qu'il peut y avoir des petits mouvements de trémulation un peu curieux, ou les bras qui se mettent à bouger, etc. Donc, on voulait étudier ça un petit peu sous hypnose. Quelquefois, même les mouvements sont très spectaculaires, et donc, du coup, ça fait peur au thérapeute. Il voit son patient qui commence à faire tout un mouvement un peu bizarre. Voilà, donc on a voulu étudier ça. Alors on a commencé par... apprendre... Ça c'est Jean Becquiot qui apprend l'auto-hypnose à nos cobayes. Donc c'est des étudiants en médecine de deuxième année de l'hôpital de Garches. Voilà, donc du coup, ils ont commencé. Alors, on leur fait une première série d'IRM où ils ne connaissaient pas du tout l'hypnose pour étudier la motricité. On leur demandait de faire des mouvements comme ça. Et puis après, ils ont appris l'hypnose avec, avec Jean, oui. Et puis, alors là, il y a nos cobayes, et puis derrière, il y avait tous les gens du service de radio et de l'hôpital de Gerges qui voulaient apprendre, l'hypnose. Voilà. Et, et ensuite, seulement on l'a fait lire. Donc, ils étaient vierges d'hypnose de la première IRM, et puis ensuite, on leur a fait faire le même mouvement sur le même sujet. Premier protocole, c'était avec Bernard Bussel, donc le patron de la neurologie, de la rééducation neurologique, qui est un très, très fin spécialiste du mouvement. L'idée, c'était, est-ce qu'on peut modifier la voie cortico-spinale lors d'une simulation magnétique transcrânienne avec le processus hypnotique? Alors, ça paraît compliqué, mais vous allez voir que c'est très simple. Vous avez le cortex moteur primaire qui est là. Donc, si on stimule là, en envoyant un petit champ magnétique intense et bref, on obtient une contraction réflexe du membre de l'autre côté. Ça croise la motricité, ça croise entre l'hémisphère et la partie du corps qui bouge. Et donc, en fait, on voulait tester la fin du mouvement. Vous voyez, le début du mouvement, c'est je vais faire un mouvement, je me prépare à le faire et je l'effectue. On a testé la fin. C'est-à-dire que l'ordre est lancé et on voulait voir si l'hypnose pouvait agir entre la zone motrice et l'action musculaire en stimulant directement cette zone-là. Donc ça fait un neurone, deux neurones. Donc ça, c'est des tests intéressants à faire. Voilà, donc on utilise des petites sondes comme ça en plastique que vous posez sur le crâne. Alors ça, vous entendez parler parce que ça s'éveille beaucoup, parce que ça sert pour les dépressions graves. On commence à servir pour les dépressions graves, les troubles obsessionnels compulsifs, etc. Il faut savoir combien il faut mettre d'énergie et à quel endroit il faut faire la simulation. Voilà, donc ça donnait ça comme protocole. Je vous montre un petit bout de vidéo. Alors, ça c'est le professeur Bussel, ça c'est Michel Bombeau, son assistante. Ça, c'est notre cobaye, Carole. Alors, on lui a mis un corset de paraplégique pour qu'elle n'ait pas du tout de mouvement en parasite, que ce soit que le bras qui bouge. Là, il y a un enregistrement électromyogramme, donc on enregistre les contractions du muscle. Et là, Michel Bombeau, elle pose la sonde en plastique là, sur l'hémisphère. Vous voyez l'hémisphère de l'autre côté, de façon à obtenir une contraction de contrôle latéral. Voilà, parce que si vous regardez bien, de temps en temps, il y a un petit tressaillement de la main. C'est, à chaque impulsion, ça, on voit la contraction. Donc elle fait un mouvement de lévitation sous hypnose et on regarde si la contraction est modifiée.
Et là tu fais des suggestions quand même pour la
lévitation. Je suis en train de parler. Je suis en train de lui parler parce que bon, c'est des étudiants, ils avaient besoin qu'on les. C'était plus facile. L'hypnose c'est très facile quand il y a quelqu'un à côté de vous. Quand vous êtes tout seul, bon, l'auto-hypnose c'est très très bien, mais quand même pour un protocole comme ça. Alors c'est assez angoissant de sentir son corps bouger alors que vous ne contrôlez rien, mais pas sous hypnose. Hein. Lien pareil, c'est pas très confortable, l'hypnose souvent les gens sont un peu étroits, mais sous hypnose ça se passe très bien. Voilà, donc c'est la fin du protocole. Donc on a passé 5 sujets comme ça, hein, et donc le seuil de réponse électromyographique n'était pas modifié chez les sujets, et donc la voie cortico-spinale à la motricité n'est pas modifiée par l'hypnose. Donc si elle est modifiée, il faut chercher ailleurs. Voilà. Par contre, ce qu'on sait, c'est que l'hypnose diminue le réflexe de nociception au niveau médulaire. C'est-à-dire que quelqu'un sous hypnose, le retrait d'un membre, par exemple, quand on pique, quand on le brûle, peut être modulé grâce à l'hypnose. Hein. Mais pas la motricité, comme on vous l'a montré. Donc, deuxième partie, deuxième étude, c'était l'IA fonctionnel. Donc, on leur a appris à faire un mouvement sous hypnose. Et puis on a regardé sans hypnose et avec hypnose, et on a comparé un petit peu les deux états. Donc est-ce qu'il existe un circuit d'activation cérébrale spécifique lors des mouvements faits sous hypnose? Voilà, donc on a passé nos cobayes dans l'IRM fonctionnel. Voilà, ça c'est Jean Becchio qui leur donne quelques suggestions. Donc on leur parlait avant les séquences, et par contre lors des séquences, il n'y avait aucun bruit. Faisait le travail tout seul, de façon à ne pas qu'il y ait d'interférence, pas perturber. Voilà. Donc ça devient ça. Vous voyez quelque chose? C'est pas très visible. Hein. Voilà, il demande L'élévation. Maintenant, on appelle ça l'évitation. Les Américains appellent ça l'évitation, c'est quand les bras s'allument pendant les phénomènes. Alors on n'entend pas le bruit, mais ça fait un bruit terrible. Et c'est pour ceux qui en ont déjà passé. Voilà. Donc là, vous n'avez pas le bruit du marteau-piqueur qui va avec. Donc ils avaient un casque sur les oreilles et puis on leur parlait entre les séquences pour entretenir la transe hypnotique. Hein. On a pu étudier 6 sujets sur 10. Pourquoi ? Parce que l'IRM, c'est très sensible au mouvement, il ne faut pas bouger du tout. Évidemment, on leur demandait de faire des mouvements pendant l'hypnose, donc les bras bougeaient, mais évidemment la tête, le reste du corps gigote un peu aussi, donc du coup, on a étudié 6 sur 10. Et donc, ça c'est l'activation corticale normale des aires motrices sans hypnose. Hein. Donc vous voyez les deux zones motrices qui s'allument comme ça, on faisait bouger les deux bras, donc les deux zones motrices s'allument. Et par contre, l'activation spécifique liée à l'hypnose, c'est un petit peu différent. Donc on a vu une activation au niveau du cerveau, le cerveau c'est ici en arrière, en bas, là, au niveau de la fosse postérieure. Également une activation du lobe pariétal droit, une activation du cortex singulaire antérieur, surtout à droite, et puis une activation du lobe temporal gauche. On voit aussi les taches. Alors ça donnait cette carte tridimensionnelle. Avec les zones de couleur correspondant aux zones activées pendant lors d'un mouvement fait pendant la transe hypnotique. Alors, étudier la motricité pendant l'hypnose, c'est pas une idée nouvelle, hein, puisque oui, il y a ce monsieur-là au 19e siècle qui a été le premier à essayer de comprendre ce qui se passait au niveau du cerveau pendant l'hypnose, hein, c'est Jean-Martin Charcot, donc c'est l'école de neurologie de la Salpêtrière, c'est vraiment la personne peut-être qui a fondé la neurologie moderne. Donc il a décrit 17 maladies et syndromes, dont la sclérose en plaques, la sclérose latérale, amyotrophique. Et puis en 1872, comme s'il n'avait pas assez bossé, il s'est quand même intéressé à l'hystérie et à l'hypnose, qui sont quand même les morceaux coriaces, on va dire, de la neurologie et de la psychiatrie, parce qu'on commence seulement à comprendre maintenant comment ça fonctionne. Voilà. À l'époque, donc, ils pensaient que l'hypnose était le symptôme d'une maladie, l'hystérie. Donc on lui doit quand même des cartes de localisation médulaire. Hein, c'est le premier à avoir vraiment fait examiner les patients, fait des autopsies, puis montrer que telle anomalie du cerveau, de la moelle épinière, correspondait à telle maladie. Donc, c'était vraiment un gars tout à fait génial. Il s'est intéressé aux localisations motrices du cortex cérébral chez l'homme, hein, 1879, avec Pitre. Et puis l'hypnose, ben c'est l'hypnose de l'époque, donc on touchait beaucoup, c'était assez spectaculaire, c'était très directif, c'était pas de l'hypnose ericksonienne, c'est de l'hypnose à la russe, technique russe, suggestion directe. Voilà, alors, donc ils faisaient les passes, à l'époque on disait passes hypnotiques avec massage du globe oculaire, etc. Ça a été abandonné, hein. On fait plus ça maintenant. Voilà, une photo que j'ai retrouvée sur Internet qui a disparu de la Salpêtrière parce qu'ils ont perdu beaucoup de documents. C'est Charcot et Richet qui testent la réponse neuromusculaire pendant l'hypnose en 1882. Et ils l'ont publié, donc il y a un cas clinique de suggestion hypnotique de paralysie en 1885. Voilà, donc il faut attendre 2004 pour revenir à des études plus récentes. Alors ça c'est une étude intéressante donc de 2004. C'est pas de l'hypnose mais ça ressemble un peu à l'hypnose. On prend deux groupes de jeunes gens, souvent c'est des étudiants de fac de psycho par exemple. Et il y a un groupe qui fait des pompes et puis l'autre groupe qui fait un entraînement mental seul. C'est-à-dire interdiction de s'entraîner physiquement, que l'entraînement mental du mouvement. On s'imagine qu'on fait le mouvement. Alors, ils avaient électroencéphalographie, l'électromyographe pour être sûr que pendant qu'ils faisaient l'entraînement mental, il n'y avait pas la moindre contraction musculaire. Donc, oui, c'est une étude quand même assez sérieuse. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont montré vous voyez que l'entraînement mental seul augmente la force des petits muscles de 35%, et puis le biceps, ça monte à entre 13 et 14 %, ce qui est quand même pas mal. Hein. Donc, alors ça ne remplace pas l'entraînement physique, mais si vous proposez à un sportif de haut niveau un peu d'entraînement mental, il risque de gagner un peu plus que tout ce qu'il a réussi à faire déjà sur le, dans la piscine ou sur la piste du stade. Ouais, c'est une équipe américaine qui a fait ça, je trouve ça assez, assez amusant. En 2003, donc, il y a une équipe anglaise, Blackmore, Susan Blackmore, David Oakley, qui ont étudié la motricité sous hypnose. Et ce qui est intéressant, alors c'était du PET scan, c'était pas l'IRM. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont trouvé une activation du cortex pariétal et du cervelet commun. Voilà, donc ça donnait ces images-là. Juste après qu'on ait présenté notre étude au congrès d'hypnose de Nantes, en 2009, il y a ce papier-là qui est sorti, c'est Angela Sirigu, qui est une chercheure en neurosciences à Lyon, extrêmement brillante, qui s'est intéressée aux patients qui devaient être opérés de tumeurs cérébrales. Et en fait, ils ont fait des stimulations électriques directes de certaines zones pariétales, donc là, vous retirez un volet de la boîte crânienne, et puis vous mettez des électrodes, les gens sont conscients, et puis vous leur demandez ce qu'ils ressentent. Donc l'intérêt, c'est de localiser précisément les zones motrices, les zones importantes du cerveau avant de retirer la tumeur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en stimulant directement certaines zones pariétales, il y avait des patients qui ont ressenti un fort désir de bouger, il y a un patient qui a dit avoir déclaré, remué les lèvres, et il s'était inquiété de ce qu'il avait pu dire. En fait, il n'a rien du tout, mais il a eu l'impression de parler. Voilà, donc il a eu l'illusion de bouger. Alors vous voyez, ça c'est la zone motrice classique, et puis là vous avez la zone pariétale qui a été stimulée lors de son étude. Alors pour moi, ça, on ne peut pas tout stimuler, parce qu'il n'y a qu'un petit volet osseux qui est tiré en regard de la tumeur. Hein. Alors, voilà, donc la stimulation du cortex pariétal suscite des intentions motrices, donc vous avez l'intention de faire un mouvement, mais vous avez aussi l'illusion de faire le mouvement. Donc ça n'avait jamais été démontré de façon aussi formelle. Et donc en fait la conscience du mouvement dépend du lobe pariétal au cœur d'un circuit de planification de l'action. Et donc stimuler artificiellement ces zones pariétales font naître des intentions de mouvement, mais également des illusions de mouvement. Voilà, donc nos conclusions pour la partie motricité, donc c'est qu'on ne peut pas modifier la motricité cortico-spinale, donc la voie terminale du mouvement. Et par contre, on a l'impression qu'il y a un réseau un peu spécifique temporo-pariéto-cervelleux qui s'active lors des mouvements faits sous hypnose. Alors l'idée, évidemment, c'est on a fait le sujet simple, on aimerait bien tester ça chez les patients avec des tétraplégies, paraplégies, à Garches. On ne manque pas de personnes à rééduquer, à refaire marcher. Alors pour les mouvements involontaires, ben l'hypnose a l'air d'être un outil intéressant. Comprendre la transe hypnotique, comprendre aussi les mouvements et les danses un peu spéciales des chamans et certains oracles en Asie. Comprendre l'hystérie, comprendre les pseudocrises d'épilepsie de l'enfant. Les pseudocrises d'épilepsie de l'enfant, c'est parmi les enfants épileptiques qui sont classés résistants au traitement médicamenteux, anti-épileptiques, il y en a qui ne sont pas du tout épileptiques. Et c'est pour ça que le traitement marche en fait. C'est des enfants qui font des crises de mouvements normaux mais qui n'ont rien à voir avec de l'épilepsie. Et ça, c'est une étude très récente, en 2008, de Olson, qui est un neuropédiatre de Stanford, américain, donc qui a montré que l'hypnose pouvait provoquer ces fameuses pseudo-crises d'épilepsie et puis résoudre également les stopper. Donc c'est également un outil intéressant pour le diagnostic clinique de ces pseudo-crises d'épilepsie. Pour la schizophrénie, c'est intéressant aussi parce qu'il y a des pertes de contrôle hein, de certains actes et de certains mouvements, les schizophrènes ayant l'impression d'être contrôlés par quelqu'un d'autre, hein, n'être plus responsables de leurs actes. Et donc évidemment, là, c'est des travaux aussi qui sont très, très intéressants pour ces sujets-là. Voilà. Et la deuxième surprise, donc il y a eu Angela Sirigu juste après qu'on a fait notre communication, et puis là, dans la foulée, Patrick Villemier, qui est un professeur de neurologie de Genève, qui a montré, en fait, il a étudié la paralysie hypnotique en lien fonctionnel. Alors l'idée, c'était, il a pris trois catégories, il a pris des volontaires simples, je vous parlais des étudiants, ce qui revient moins cher dans les facultés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a étudié trois conditions, l'état normal, la paralysie hypnotique de la, bon là c'était la main gauche, hein, et puis la paralysie simulée, c'est-à-dire qu'il a demandé à des gens de dire, il a demandé faites semblant, et c'est ça le génie de son étude, c'est qu'il a demandé aux gens de simuler une paralysie. Et à chaque fois, eh bien, vous obtenez des activations différentes du cerveau. Voilà, donc pendant la paralysie hypnotique, hein, ce qui a été noté, c'était donc un réseau neuronal différent par rapport à une paralysie simulée, hein, donc avec une forte activité du cortex frontal, responsable du contrôle de la réalisation de la tâche, et les patients hypnotisés en fait sont dans un état d'hyper-contrôle qui est complètement différent de ce qu'on croyait ou de ce qu'on peut lire ou voir dans les films, hein, où les gens agissent comme des automates. Hein, vous avez tous vu des films où on vous montre quelqu'un hypnotisé qui est comme si on avait pris le contrôle de son cerveau, qu'il allait faire des choses comme un automate. Hein. Donc c'est archi faux. C'est exactement l'inverse, c'est un état d'hyper-contrôle.
Ça veut dire quoi, un état d'hyper-contrôle ?
Hyper-contrôle, c'est-à-dire que les zones qui contrôlent le mouvement sont suractivées par rapport à la personne qui simule la paralysie. Donc en hypnose, vous avez plus, vous n'avez pas moins. Nous, on pensait qu'il y aurait moins. Les hypothèses étaient qu'il y aura moins. Les gens sont comme des automates, donc ça inhibe, ça stoppe des processus de contrôle. Et d'où les âneries qu'on voit dans les films ou dans les trucs, c'est-à-dire je vous hypnotise réellement dans les yeux et puis je prends le contrôle de votre cerveau, qui est complètement stupide. Okay. L'hypnose, c'est un taux beaucoup plus... c'est décevant, hein, si vous pensiez. Vous arriviez à prendre le contrôle du cerveau de quelqu'un d'autre. Un peu dommage. Voilà, donc malgré les suggestions de paralysie, l'activité liée aux intentions motrices est préservée et la volonté d'agir n'est pas inhibée. Hein, donc vous avez là aussi une activation du cortex pariétal très importante. Et donc pendant l'hypnose, les régions du cerveau communiquent différemment entre elles en faisant appel à des régions liées à la représentation de soi et à l'imagination. Donc vous voyez, vous avez plus pendant l'hypnose que moins. Moins, c'est le gars qui simule, par exemple. Le gars qui simule, qui fait « j'arrive pas à bouger ». Lui, il a pas tout ça qui rentre en jeu. Hein. Voilà. Voilà, donc ce que disaient en fait Puységur, Faria, Bred, Charcot, Bernheim, etc., c'est... l'hypnothérapeute, lui, il est pour rien là-dedans. C'est que le patient, c'est que le sujet qui fait tout le boulot. Hein, et donc, ça ne suggère pas donc une inhibition directe du cortex moteur par les ordres adressés par l'hypnotiseur, mais un changement d'activité du cortex frontal et du cortex pariétal. Voilà. Donc les représentations mentales et une attitude centrée sur soi, déclenchée par les suggestions de l'hypnotiseur, prendrait le contrôle du comportement et le pouvoir de la suggestion hypnotique, mais aussi de celui de l'imagerie intérieure, sont ainsi confirmés. Voilà, donc il obtient une activation, une cartographie d'activation qui n'est pas exactement la même que l'autre. Nous, on a utilisé le mouvement, eux, ils ont utilisé la paralysie, l'absence de mouvement. Mais en gros, on retrouve un peu les mêmes régions. Voilà. Et comme c'est un gars qui est particulièrement brillant, il s'est attaqué à l'hystérie. Alors ça, c'est un papier de, je ne sais plus quand, 2001, c'est ça. Et hop, il a enchaîné tout de suite avec un deuxième papier en 2009, hein, où il montre, il explique le cerveau pendant la paralysie hystérique, hein, de sujets qui ont des paralysies qui énervent tout le monde. Hein, les hystériques dans les services neurologiques, c'est les patients qui énervent tout le monde, parce qu'en fait, ils ont des signes neurologiques, ils n'arrivent pas à bouger tel ou tel membre. Par contre, tous les tests sont normaux. Vous pouvez faire tous les scanners, tous les IRM que vous voulez, tout est normal. Et là, on y a un fonctionnel, c'est un des premiers à avoir montré que là aussi, il y a des vrais troubles de fonctionnement du cerveau et de connexion entre certaines zones cérébrales qui fait que les gens... Alors là, c'est pareil, il a comparé avec des gens qui simulaient. Parce qu'on dit, vous êtes des simulateurs, hein, monsieur, madame, avec votre paralysie, là, vous nous énervez. On a fait scanner IRM, tous les tests sont normaux. Vous simulez. Hein, et en fait, il a montré que c'était une vraie maladie avec un défaut de fonction du cerveau qui empêchait les gens de bouger telle ou telle partie du corps. Le langage dans l'hypnose, je dis quelques mots quand même.
Oui, bien sûr.
Alors, c'est pas du tout ma spécialité, mais je me suis forcé.
Quelle abnégation.
Alors, de la multidisciplinarité nécessaire dans les sciences neurocognitives, vous voyez, c'est l'hexagone de 1978, qui est toujours d'actualité, donc neurosciences, intelligence artificielle, psychologie, philosophie, linguistique et anthropologie.
Qu'est-ce qui a mis au point cet hexagone?
Écoute, j'en sais trop rien, mais j'ai trouvé ce schéma là qui date de 78 et je le trouvais génial parce que vous voyez, là, en 2010, ça confirme exactement ça. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, alors on pourrait ajouter mathématiques, hein, parce que mettre même mathématiques au centre, parce que finalement, vous avez besoin de tous ces spécialités. Si vous voulez aller à Neurospin, vous allez voir des mathématiciens, des physiciens, des médecins, des psychiatres, tout le monde qui travaille la main dans la main. Voilà, on revient à Elvira Lang, la professeure de radiologie interventionnelle qui fait ses interventions sous hypnose à l'hôpital de Boston. Alors, elle fait pas que la radiologie, elle fait aussi de la linguistique médicale. Et donc, elle a publié cet article dans la revue Pain en 2005. Et l'idée, c'est est-ce que les mots peuvent blesser nos patients quand on s'occupe des patients, est-ce qu'on est capable de les blesser en parlant? Et donc, elle a fait un truc assez incroyable. Elle a pris la caméra, elle a filmé son équipe en train de travailler. Et elle a noté le niveau de douleur pendant la procédure de l'examen. Et elle s'est rendue compte que les gens, les manipulateurs radio, les infirmières, les médecins, en voulant bien faire, en étant empathiques, hein, puisqu'on est tous très forts en empathie hein, dans les hôpitaux, et ben en fait, ils augmentaient le seuil de douleur de leurs patients. Vous voyez, donc, ça, c'est vraiment un travail très, très passionnant. C'est l'effet nocebo du langage empathique. Hein, donc vous dites à vos patients, nous on dit tous à nos patients des phrases qui sont toujours les mêmes, en croyant que ça va les rassurer, et c'est une vraie catastrophe. Ça fait l'inverse. Hein, c'est ne bougez pas, vous n'allez pas voir mal, restez tranquille, enfin tout un tas de trucs qu'on dit naturellement, qui ont un effet négatif sur le niveau d'anxiété et de douleur des patients. Alors elle fait un deuxième papier qui est plus récent, donc. Alors, j'ai traduit hein, effet bénéfique de l'hypnose et effet adverse de l'attention empathique pendant le traitement percutané des tumeurs. Être gentil n'est pas suffisant. Hein, c'est exactement ça l'hypnose. C'est apprendre une technique de communication avec les patients qui est complètement différente de l'empathie. L'empathie, c'est je vous prends la main, je viens pleurer avec vous sur vos souffrances, etc. Et ça ne marche pas. Hein, ça aggrave les symptômes et l'angoisse et la douleur des patients. Ça, c'est un papier de 2008. Tu connaissais celui-là, Chantal? Donc c'est marrant parce qu'elle continue hein, dans la linguistique, cette femme-là, elle a vraiment compris beaucoup de choses sur vous voyez, les rapports patient, médecin-patient, thérapeute-patient. Donc arrêtez d'être gentil avec vos patients.
Vous faites comment?
Bon, on utilise le langage hypnotique. Hein. Le langage de l'hypnose, ça suffit.
Vous faire pareil avec les étudiants?
Et expliquer ouais. Ce qu'on fait, c'est pas mieux.
Pardon?
Expliquer
au patient. Ah oui, ça fait partie, mais c'est pas empathique. L'explication de. Alors, quand on explique le geste, on peut l'expliquer de façon horrible, avec des termes techniques qui vont, pareil, coller les gens au plafond de douleur, ou au contraire, on va utiliser un langage qui est débarrassé de tous les termes techniques et tous les termes choquants, ce qu'on apprend en hypnose, en fait. Hein. Et du coup, là, les gens vont adhérer au geste. Hein. Alors c'est Ruyer Clipping apparemment qui a dit que les mots étaient les médicaments les plus efficaces utilisés par l'homme. Bon, les antibiotiques, c'est quand même. Voilà, ce monsieur-là, c'est Pierre Janet. Donc après la mort de Jean-Martin Charcot, ce sera un des rares à continuer à s'intéresser à l'hypnose. Et en 1923, il estime que désintéresser pour ce phénomène n'est qu'un accident momentané dans l'histoire de la psychothérapie. Effectivement, l'avenir lui donne raison à ce monsieur-là. Alors, l'idée, c'est que nous, on a l'impression que l'hypnose peut être utilisée pour comprendre mieux le fonctionnement du cerveau. Vous avez vu l'exemple des synesthésies. On hésitait entre deux hypothèses. Avec l'hypnose, on arrive à trancher entre les deux hypothèses. Voilà, puis qu'on est en train de vraiment d'écrire une page importante de l'histoire, puis de sortir un peu de l'hypnose de cabaret Et c'est ça, je peux vous dire que ça nous colle au basque, hein, ce genre de truc-là. Regardez-moi dans les yeux, je vais prendre le contrôle de votre cerveau. Voilà, donc l'avenir, bah, c'est avec Ghislaine Dehaene à Neurospin. Hein, donc on a commencé une étude d'électroencéphalographie haute résolution. On étudie l'audition sous hypnose. Voilà, ça c'est pour ceux qui sont claustrophobes. L'IAM, c'est grand finalement. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Là, je vous ai mis des sites internet si vous voulez.
C'est nous qui te remercions, Bruno, et toutes ces explications, certaines étaient assez techniques. Et donc, je vais vous donner la parole et vous pouvez demander toutes les précisions que vous souhaitez. On aura une heure encore. Donc, pour demander à la fois toutes les explications techniques et non techniques que vous pouvez avoir envie de demander à Bruno ou à d'autres spécialistes d'hypnose dans la salle. On a Chantal Wood qui est à l'hôpital Robert Debré, qui travaille au service de l'équipe douleur, hein, qui est anesthésiste de formation et pédiatre, c'est ça ? Pédiatre. Et un peu anesthésiste. Et il y a quelques praticiens dans la salle. Il y a le monsieur qui filme et thérapeute. Il y a Nathalie Roudil-Paolucci, avec qui je viens d'écrire un livre qui paraît le mois prochain sur les idées reçues sur l'hypnose, donc aussi pour contribuer à lutter contre ces fameuses idées de l'hypnose de cabaret. Et plein d'autres gens qui peuvent répondre à toutes vos questions.
Et s'il vous plaît, vous avez dit que pendant l'hypnose, entre guillemets, il ne faut pas être gentil, c'est-à-dire qu'il ne faut pas consoler, il ne faut pas être empathique. Et est-ce que vous pourriez expliquer, vous faites comment, c'est-à-dire vous dites les phrases paradoxales, vous faites, je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites finalement au niveau...
Alors, l'idée de la séance d'hypnose, c'est que, ceux qui veulent se former, évidemment, c'est bien de faire tout le processus de formation. Dans la séance d'hypnose, on va utiliser en fait 20 ou 25 points, 20 ou 25 étapes qu'il faut respecter de façon très scrupuleuse, de façon à ce que la personne rentre dans cet état particulier de la conscience qui va lui permettre de résoudre toute seule, sans faire d'effort, la raison pour laquelle elle vient vous voir. La délicatesse pour rendre compte d'une séance d'hypnose, c'est qu'en fait, si on suit la technique ericksonienne, chaque séance va être différente. Pourquoi ? Parce que vous asseyez en face de votre patient et vous allez devenir le caméléon de votre patient. Vous allez devenir son sosie. Et c'est comme ça que la transe hypnotique va avoir lieu. Et si vous ne faites pas ça, les gens ne rentrent pas en transe. Ça ne marche pas. Donc du coup, la technique, on ne peut pas dire j'ai une recette, vous appliquez ça à n'importe quel patient, vous allez voir, ça marche dans tous les coups. C'est, l'hypnose, c'est l'imagination à chaque séance. Et donc comme vous partez du comportement verbal et du comportement non-verbal de votre patient, son attitude, sa façon de se gratter la tête, etc., chaque séance va être complètement différente. Chantal, qui s'occupe d'enfants, elle ne fait pas du tout les mêmes séances que des gens qui vont s'occuper d'adultes. Et au sein même des adultes, au sein même des enfants, vous allez avoir des séances qui sont complètement adaptées aux patients que vous avez en face de vous. Un oreille, c'est un peu particulier, donc c'est pour ça qu'on a du mal à rendre compte facilement de la séance d'hypnose. C'est comme vous allez être le caméléon de votre patient. Du coup, on ne peut pas dire, on ne peut pas donner des conseils. Vous pouvez apprendre les 25 points qui vous permettent de faire une séance d'hypnose complète, mais vous ne pouvez pas utiliser la même recette pour chaque patient. Vous voyez, donc c'est hautement lié à la personnalité de votre patient. Alors, sauf en neurosciences, où nous, on a appliqué strictement, on appelle ça des scripts. On écrit des phrases et on les a répétées toujours. Toujours les mêmes phrases à nos sujets parce que c'est un travail de recherche. Mais en hypnose ericksonienne, il ne faut surtout pas faire ça. Le but, c'était de faire la recherche, c'est pas de guérir un tel ou tel symptôme. En hypnose, on fait exactement l'inverse, c'est-à-dire que jamais on applique de script tout près. On va coller au patient et à ses symptômes pour faire la séance dont lui a besoin. Oui. Alors c'est, voilà. Donc pas de recette.
De quelques étapes, un traitement de type de phrase, par exemple.
Alors, bon, par exemple, on peut faire de l'hypnose conversationnelle quand vous n'avez pas beaucoup de temps. Juste dans la conversation, on utilise un langage adapté qui va faire en sorte que la personne va avoir confiance rapidement et va se détendre. L'idée, c'est vraiment de partir des mots du patient pour, à partir de ces mots du patient, de construire le vocabulaire adapté à votre patient. Donc si vous attendez que ce soit le patient qui vous pose des questions, ou qui vous parle, ou qui vous suggère des choses, vous allez trouver tout de suite les images qui vont bien avec ce patient-là. Et c'est ça va être ça la base de travail. De la même façon, en hypnose, on n'utilise pas de termes choquants, on débarrasse le vocabulaire au maximum des termes techniques, et puis surtout, on va utiliser on appelle ça les verbes mobilisateurs, c'est ce qui va aider aux gens à mettre en branle leur système de ressources internes. Donc, vous allez débarrasser tout votre vocabulaire de termes péjoratifs qu'on dit très très facilement, on dit ça dans la vie de tous les jours, et remplacer ça par des verbes comme construire, bâtir, équilibrer, harmoniser, etc. D'accord ? Bon, oui, c'est... Alors, au début, on n'y arrive pas. Au début, le naturel revient au galop, donc on retombe dans l'empathie nulle.
C'est pas hypnotique de dire ça. C'est autoréalisante. Ouais.
On retombe dans l'empathie, comme je vous ai montré, là, qui fait du mal aux gens plus qu'elle ne les aide. Et petit à petit, on finit par avoir le langage adapté à chaque situation. Donc voilà, ça c'est pour l'hypnose conversationnelle, par exemple. Mais après, il y a les 25 points, donc vraiment, il faut... C'est toute une... tout un travail d'apprentissage.
Est-ce que 25
points
veut dire 25 séances?
Non, pas du tout. C'est dans une séance d'hypnose, il y a 25 étapes.
Dans une séance qui dure combien de temps? Ben,
la séance, ça dure... vous pouvez faire des séances de 2 minutes chez quelqu'un en fin de vie, par exemple en soins palliatifs. Hein, donc, Jean Bécu a développé des séances d'hypnose extrêmement brèves et très performantes chez les gens qui sont en fin de vie parce qu'ils n'ont pas assez d'énergie pour faire la séance d'hypnose classique qui dure une demi-heure, une heure pour vraiment les grandes, pour les gens qui ont vraiment envie de prendre leur temps. Mais l'hypnose en 20 minutes, une séance d'hypnose en 20 minutes, c'est tout à fait réalisable.
Ça dépend de ce qu'on cherche à soigner aussi. Ça dépend si c'est pour de la douleur, si c'est pour un problème psychologique. Chantal, tu voulais ajouter quelque chose?
Je voulais prendre un exemple d'hypnose conversationnelle. C'est ce qui se passe quand vous êtes chez le médecin et qu'il vous fait votre prescription. Vous êtes, en fait, l'hypnose, c'est ça, vous êtes focalisé, vous regardez la feuille que le médecin est entre la prescription que le médecin fait. Donc les prescriptions faites par la main sont beaucoup plus efficaces que les prescriptions informatiques. Donc vous êtes centré sur la feuille et il suffit que le médecin dise « je vous prescris tel médicament » et vous allez être surpris de voir que vous allez mieux dormir. Voilà. Il a lancé une suggestion. Et la personne est là et entend ça. Parce qu'elle est focalisée sur la feuille. Donc, ça, c'est de l'hypnose conversationnelle.
Voilà. Alors, vous pouvez dire tenez, prenez ça, et si ça ne marche pas, revenez voir en 15 jours. Et donc, dans 15 jours, vous êtes sûr que votre patient va revenir et que le médicament va pas marcher.
Ça, c'est si vous avez besoin d'avoir une clientèle plus importante.
D'accord, Chantal. Ça, c'est l'inverse de l'hypnose. Mais bon, je vous donne l'exemple pour. Vous voyez, l'hypnose, c'est pas grand-chose. Hein,
Tu as parlé de la différence entre la distraction et l'hypnose tout à l'heure. Moi, j'avais une question par rapport à une conversation qu'on a eue avec Chantal il y a quelques temps. C'est un exemple qui a été donné pour l'hypnose conversationnelle faite avec un enfant avec qui on a une piqûre. Au lieu de lui dire attention, ça va faire mal, je vais te piquer, on lui tamponne un éléphant, ça peut être sur la cuisse, et on dit je pique l'éléphant plutôt dans la cuisse droite ou la cuisse gauche. Et l'enfant, on dit dans la cuisse droite, crac, on pique, on parle des éléphants et d'autres choses. Et après, on lui demande si l'éléphant a eu mal, comme ça on a dissocié l'enfant de la partie qui a été piquée. Et Chantal me disait que c'était vraiment de l'hypnose, ça. Et j'en ai parlé avec plusieurs personnes qui ne connaissent pas l'hypnose, qui disent mais c'est de la distraction. Et donc, comment on peut expliquer la différence entre distraction et hypnose?
De toute façon, c'est l'intensité de la focalisation et de la concentration.
D'accord. Mmh. Donc, c'est plutôt une question de degré que de nature. D'accord.
C'est-à-dire qu'actuellement, ils ont même montré, il y a une étude qui est sortie il y a peu de temps, je ne sais pas si je peux vous passer, qui compare relaxation, hypnose, relaxation et hypnose analgésie. Mmh. Et en fait, l'hypnose analgésie est beaucoup plus efficace. Mmh.
Ou est-ce qu'il revient au même la diapo pour nous passer tout à l'heure?
C'est un petit peu technique, je ne sais pas si c'est hors sujet, mais comme vous êtes spécialiste du mouvement et de l'hypnose, je voudrais savoir si vous aviez entendu parler de choses autour d'une maladie de musicien qui est très spéciale, qui s'appelle la dystonie focale. Et qui fait, moi j'ai un proche qui a ça, quoi. Il peut, juste quand il joue de la guitare, il prend de la musique, quand il joue de la guitare, il ne peut plus son petit doigt, il ne contrôle plus certains mouvements. Quoi. Et ça, la seule, c'est apparemment pas très très bien connu, le seul traitement qu'on a, c'est par la kinésithérapie. Et ça n'a aucune efficacité, quoi, ce traitement. Et donc.
C'est une pathologie, effectivement, qui est bien analysée, on va dire, chez les musiciens. Parce que c'est eux qui sont touchés, en fait, par ça. C'est une maladie professionnelle, si vous voulez. Et les traitements sont effectivement décevants. Et à ma connaissance, l'hypnose n'a pas été testée. Mais pour la motricité, on n'est pas très en avance. Hein. C'est-à-dire que, vous avez vu, on a fait les sujets sains, mais on n'a pas encore fait les pathologies. Donc évidemment, ce genre de symptômes-là, ça serait vraiment intéressant que les musiciens justement aillent consulter des spécialistes d'hypnose pour voir quelles sont les possibilités d'amélioration. À mon avis, il y en a.
En même temps, s'il n'y a pas de protocole établi, comment est-ce que quelqu'un peut aller voir un hypnothérapeute?
Il suffit qu'il lui donne ses symptômes et puis à partir de là, le praticien fera la séance et puis après on voit les résultats. Hein. L'hypnose, hein, c'est 1, 2, 3 séances et puis après il faut que ça soit efficace, sinon on passe la main, on passe à autre chose, on essaie d'autres techniques, mais on est classé dans une thérapie brève, hein, il faut que le problème soit résolu en 1, 2, 3 séances. Hein,
Je ne connais pas le cas de ton ami, mais je connais quelqu'un d'autre, un claveciniste qui avait le même problème. Et très souvent, il y a quand même peut-être un mal-être par rapport à sa pratique, ou il y a peut-être des choses sur le plan psychologique qui, si elles peuvent être traitées par l'hypnose, simplement c'est une réorganisation des affects, de sa relation à son instrument ou à sa profession ou à d'autres choses qui peuvent apporter une amélioration. S'il y a peut-être une partie neurologique, mais il peut y avoir une partie psychologique. Et ça, l'hypnose peut avoir de très bons résultats et très rapide aussi.
Alors l'hypnose, les musiciens sont très étudiés en neurosciences à l'heure actuelle parce qu'ils n'ont pas le même cerveau que les autres. Hein. C'est-à-dire qu'à force de s'entraîner et de faire toujours leur instrument, ils finissent par modifier des zones de leur cerveau. Et s'ils arrêtent de faire leur instrument, la zone dégonfle. Et s'ils reprennent l'entraînement, la zone regonfle. Hein. Donc, ça a été montré pour les musiciens, pour les gens qui apprennent à jongler aussi. Il y a vraiment des zones du cerveau qui se développent. Alors c'est pas de la neurogénèse, c'est de la neuroplasticité. Vous voyez la différence entre neurogénèse et neuroplasticité? Vous voyez un peu ou pas? Neurogénèse, c'est facile, c'est que le fœtus et le petit enfant, donc c'est la multiplication des neurones à l'intérieur du cerveau. Et chez l'adulte, c'est que la zone temporale interne, donc l'hippocampe, donc la zone de la mémoire et des phobies. Et le cortex frontal aussi, basifrontal. Donc c'est les deux zones du cerveau, ils continuent à avoir des multiplications de neurones. Après, les autres neurones du cerveau ne se multiplient plus. Et donc c'est là qu'intervient la neuroplasticité, c'est-à-dire comment vous pouvez vous débrouiller avec un bout de cerveau en moins. Donc vous allez vous adapter, créer des nouvelles connexions, etc. à partir du dégât cérébral que vous avez eu.
Dans l'hippocampe?
Pardon?
Dans l'hippocampe?
Ça c'est la neurogénèse. Chez l'adulte, c'est l'hippocampe et le lobe basifrontal, la partie inférieure du niveau frontal. C'est les deux vers les bulbes olfactifs, la région de l'odorat. C'est les deux seules zones qui continuent à avoir une activité. Avant, on ne le savait pas. Hein. C'est que depuis 10 ans qu'on sait que ça continue à se développer.
La fonction du lobe temporal frontal.
La fonction du
lobe temporal frontal dont vous parliez pour la neurogénèse en dehors de l'hippocampe.
Il n'y a pas de division cellulaire. Hein. Donc il y a deux petites zones du cerveau qui continuent où les neurones continuent à se développer, à se multiplier. Toutes les zones du cerveau, vous perdez par contre.
Ils ne continuent pas tout le temps à la jambe, seulement à la stimulation externe pour vous
voilà. Après, alors les stimulation externe. Ouais. Les méditants, c'est pareil, hein. C'est quand même les musiciens, les gens qui font de la méditation, ils n'ont pas le même cerveau que les autres, ils ont des zones du cerveau plus gonflées, ils perdent moins leurs neurones que les autres.
Mais pour ce qu'on discutait tout à l'heure sur les musiciens, il s'agit d'une fonctionnalité qui est plus de connexion qui
ouais.
Ça gonfle comme fonctionnalité et non pas comme...
Ça gonfle en volume, hein. C'est des volumétries célèbres. Hein. Les études dont je vous parle, c'est de la volumétrie haute résolution, donc c'est des gonflements qui sont chiffrés en millimètres cubes. Hein.
Chez un adulte qui commence la musique, ou c'est un adulte qui a commencé la musique pendant son enfance, et c'est des études actuelles de son état adulte.
Chez les adultes, on peut avoir des gonflements et des dégonflements de zones cérébrales, pas par neurogénèse, mais par neuroplasticité.
En IRM fonctionnel.
Non, c'est de l'anatomie, hein, c'est pas de l'IRM fonctionnel. C'est du volume, de la volumétrie cérébrale. Donc c'est rien à voir avec l'IRM fonctionnel.
Est-ce que les arts martiaux ont un intérêt dans votre recherche pour les neurosciences, et est-ce qu'il y aurait des relations avec l'hypnose par certains côtés?
Certainement, là on est en train de réfléchir à des protocoles de recherche sur la danse, parce que les danseurs ils commencent à s'intéresser à l'hypnose, et on a quelques chorégraphes français connus qui commencent à utiliser l'hypnose pour la préparation mentale des danseurs, parce que l'hypnose c'est très bien pour les trackers, si vous avez le track, si vous avez la trouille dans les examens, c'est très efficace. Et donc pour les gens qui ont besoin de monter sur scène devant un public, etc., qui sont morts de trouille, vraiment c'est une technique très, très performante. Et donc les arts martiaux, bien entendu, hein, les arts martiaux, c'est un peu la méditation en mouvement, hein, le qigong, le yoga, tai chi, tout ça, kung fu, c'est de la méditation en mouvement, hein, c'est de la danse méditée. Donc oui, la pénétration avec la danse aussi est intéressante. Donc là, on a un protocole en cours, mais je vous en parlerai plus tard.
Tu as parlé de l'hypnose,
tout à l'heure. Oui. Ben oui, l'idée de l'hypnose, c'est d'apprendre une technique, par exemple, à des enfants dont ils pourront servir toute leur vie. C'est comme leur apprendre à jouer au tennis ou leur apprendre un instrument de musique, hein, c'est exactement pareil. On apprend à entraîner son corps, mais on peut entraîner son mental aussi. Et donc là, on apprend au cerveau à faire une tâche particulière, et c'est ça l'auto-hypnose. Hein. Donc le but du thérapeute en hypnose, c'est d'avoir le moins de consultations possibles, de façon à ce que le patient soit le plus autonome, soit le plus vite autonome. Donc l'objectif de l'hypnose, c'est l'autonomie. C'est pas les gens qui viennent vous revoir tous les mois parce que ils ne peuvent pas se passer de vous. C'est vraiment de rendre les gens autonomes. Et l'hypnose, en fait, c'est l'apprentissage de l'auto-hypnose. On apprend aux gens à faire leurs exercices à la maison. Ils font leurs exercices et puis en général, ils arrivent à résoudre ce dont ils ont besoin. Et si on fait ça avec des enfants ou des ados, c'est Laura Kuttner, une psychologue de Vancouver que Chantal connaît bien, qui a été la première à utiliser l'hypnose dans les services de cancérologie pédiatrique. Elle a interviewé les enfants tout petits et les a filmés 5-6 ans. Avec leur cancer et les gestes, les biopsies, les machins sous hypnose. Et elle les a revus à l'âge adulte, 15 ans plus tard, ceux qui avaient survécu, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont décédés. Et elle leur a demandé qu'est-ce qu'ils avaient fait d'hypnose. Et en fait, ils continuaient tous à l'utiliser. Je dois passer un examen, ou j'ai un entretien important d'embauche, ou j'ai telle douleur, et hop, ils font leur séance d'hypnose. Donc c'est rentré dans la...
Il y a un livre qui existe.
C'est une vidéo. Je ne sais pas si elle a publié ce truc-là. Il y a une cassette vidéo commercialisée par un Chantal, très cher d'ailleurs.
Pardon, elle s'appelle comme c'est Nofius Nautius, et Nofius Nautius, c'est pas de. Nofius, pas de.
Pas de peur.
Pas de larmes. Et Nautius Nofius, très antique, continue à s'écrire.
C'est Laura.
Laura, L-O-R-A, plus loin que Nof, qui a eu de l'UNR. Et elle vient de sortir un livre qui est un des plus merveilleux livres sur la prise en charge de la douleur de l'enfant, A Child in Pain, et c'est sorti il y a 15 jours. Donc,
c'est très intéressant. Et est-ce que c'est un service pour les gens qui n'arrivent plus justement à trouver le sommeil, la récupération de l'hypnose?
Est-ce que
l'hypnose... Le soulagement par rapport au stress est-il comparable au sous-hypnose et celui que vous avez vu sur ce
moment? Enfin, oui. Le sommeil, c'est un truc formidable parce qu'en fait, vous ne faites rien et puis votre corps, il travaille tout seul et il répare tout un tas de trucs. Hein, la réparation de l'ADN, des machins, ça s'effectue souvent la nuit. Tout ce que vous avez appris, vous allez classer, vous allez stocker la nuit. Hein, donc vous allez rejouer la nuit. Par exemple, vous avez appris à faire du piano. La nuit, vous allez rejouer du piano toute la nuit et de façon à consolider votre acquis. Hein, donc, oui, c'est le moment du cerveau où vous fichez la paix à votre cerveau, vous ne lui donnez pas d'ordre et il fait son travail automatique. Quand vous faites de l'hypnose, c'est un peu la même chose. Vous stoppez certains processus qui viennent perturber, entrer en conflit avec le fonctionnement naturel de votre cerveau. Et c'est comme ça que les gens trouvent des solutions originales. Et donc, il y a un point commun. Le sommeil, c'est très important. Souvent, il suffit de passer une bonne nuit réparatrice, on dit, pour effectivement se sentir bien lendemain. Une des métaphores qui est utilisée par Jean, mais par d'autres aussi certainement, c'est il fait la séance d'hypnose et il dit et maintenant là, vous êtes arrivé à un moment où vous pouvez laisser votre petit thérapeute interne faire son job. Vous n'intervenez pas, laissez-le faire. Et il sait ce qui est bon pour vous. Et hop. Voilà. Et donc vous faites ça une fois, deux fois, les gens ils font leur entraînement, et puis après, on voit la solution apparaître. Parce que vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à guérir. Vous ne pouvez pas guérir à sa place. Donc du coup, il faut laisser faire. Dans nous, on a tout un tas de... Quand vous coupez, vous ne vous demandez pas comment vous allez faire pour cicatriser. La cicatrisation, elle se fait toute seule. Hein. Il y a plein de choses dans le corps humain qui fonctionnent comme ça. Ça se répare tout seul. Hein. Et tant mieux.
En même temps, par exemple, la nuit, j'ai plein de dépressifs. C'est le moment de quand. Et le matin, c'est vraiment le plus dur quand on se réveille.
Mais c'est l'idée de... Alors, la dépression, vous allez avoir des surprises dans les semaines et les mois à venir. Probablement cette année, mais il y a beaucoup de psychiatres qui commencent à abandonner les antidépresseurs, les médicaments, pour se tourner vers des techniques comme ça, en disant que en fait c'est un grand business. Hein. Si vous regardez les critères de diagnostic de la dépression, quand même, souvent on se reconnaît tous un peu là-dedans, au moins sur certains paramètres. Hein. Et donc du coup, à part des dépressions extrêmement graves, des situations bipolaires très très précises, où les gens ont vraiment des risques suicidaires très très élevés, probablement qu'on risque d'assister à un reflux massif de prescriptions d'antidépresseurs sur la planète.
Marion avait une question, ça fait trois fois qu'elle lève les doigts.
Non médicamenteux.
Voilà, j'y arrive plus. Oui. On pourrait lui proposer un traitement qui comprend l'hypnose. Le problème que ça pose, là, c'est qu'il va avoir la prison de l'hypnose. Il va avoir tendance à choisir l'hypnose sans vouloir vraiment être guéri. Et est-ce que ça pourrait marcher quand même s'il n'a pas la volonté vraiment pure et dure de vouloir guérir?
Alors, bon, hypnose et psychose, on n'a pas parlé des indications de l'hypnose, mais c'est la contre-indication pour les gens qui ne sont pas psychiatres. C'est-à-dire que les schizophrènes, les délires, les paranoïaques, tout ça, c'est le domaine du psychiatre. Nous, on n'intervient jamais sur ces pathologies-là parce que c'est très compliqué. Et le psychiatre, lui, va décider s'il utilise les médicaments ou s'il utilise l'hypnose ou s'il utilise les deux. Hein, souvent, ils utilisent les deux. Ils peuvent utiliser les deux techniques. Pour ce qui est de la justice, c'est beaucoup plus tranché que ça. Hein. C'est soit vous êtes responsable de vos actes, soit vous n'êtes pas responsable de vos actes. Si vous n'êtes pas responsable de vos attaques, vous allez en hôpital psychiatrique, dans un service fermé. Donc en fait, c'est beaucoup plus tranché que ça. C'est pas est-ce que le schizophrène, on va le laisser en liberté ou est-ce qu'on va le... C'est est-ce qu'il est jugé responsable de ses actes ou est-ce qu'il y a une maladie psychiatrique qui explique les actes ou pas. Donc c'est très binaire. Hein. La justice est très binaire dans ce domaine-là.
Excusez-moi, j'ai vu que je suis en montant américain. Donc malheureusement, je ne pourrais pas aujourd'hui faire... La référence, voilà. Ma question, c'est à propos des phobies. Donc, il a écrit que finalement, un grand stress, un grand traumatisme va créer dans le cerveau une zone, on peut gonfler, comme vous dites, c'est-à-dire l'augmentation d'une certaine zone avec les connexions antérieures, etc. Et si la personne est vraiment fortement traumatisée, ça va rester à vie. Et le but du cerveau, c'était de recréer les liens
on peut ailleurs, dans d'autres zones, pour compenser ce trauma. Mais le traumatisme va rester toujours dans le mémoire, et si on soumet la personne dans les, une personne dans les mêmes conditions, ça peut déclencher les mêmes réactions. Et qu'est-ce que vous pourriez dire à ce sujet? Est-ce que grâce à l'hypnose ou grâce aux autres techniques, on pourrait soi-disant guérir définitivement cette personne traumatisée, que son cerveau, entre guillemets, oublie à tout jamais le grave traumatisme vécu? Je parle comme les camps de concentration, comme, je ne sais pas, les Tibétains, sur le communisme chinois. Est-ce que c'est possible que leur cerveau oublie à tout jamais et que la personne ne soit pas, je ne sais pas, sensible envers de certaines conditions?
Alors, je vois très bien les travaux auxquels vous faites allusion, parce qu'effectivement, c'est les équipes américaines qui sont les plus pointues pour ce domaine-là, et canadiennes aussi. Il y a Mario Beauregard et Vincent Paquette qui ont fait une des premières publications. C'était la phobie des araignées. Ils ont choisi une phobie qui peut être parfois gênante, et ils ont montré en fait les modifications du cerveau, c'était en lien fonctionnel, avant et après thérapie cognitive et comportementale. On apprend aux gens à se débarrasser de la phobie des araignées. Ils ont montré que le cerveau ne fonctionnait plus de la même façon après qu'avant. Les phobies, c'est un domaine très passionnant. On a commencé une étude là, dans la clinique dans laquelle je travaille sur la claustrophobie en Iran, avec une séance d'hypnose très brève, juste avant de faire l'examen. C'est les gens qui viennent, ils disent rien, on les met dans la machine et puis ils sortent en hurlant, en disant sortez-moi de là. Et donc du coup, on ne peut pas leur faire les examens. Donc ça, et en fait, sur 4 mois, on a fait 900 IRM, enfin, c'était sur l'évacuation. On a identifié 20 claustrophobes graves, on a proposé l'hypnose. Sur les 20, il y en a 17 qui ont accepté. Il y en a 3 qui ont refusé, donc ceux-là, on n'avait plus les rentrer dans la machine. Par contre, les 17 qui ont accepté, on leur a fait une séance unique de 2 minutes 30 et on a pu faire l'examen. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a fait disparaître la claustrophobie, ça veut dire qu'on a rendu leur vie plus confortable. L'idée de la phobie, c'est qu'il ne faut pas les faire disparaître complètement. Si vous avez plus peur du feu, ou si vous avez plus peur du danger ou du vide, ça peut devenir dangereux. Donc, votre vie peut devenir un vrai cauchemar. Les gens qui n'ont pas la sensation de la douleur, par exemple, ils vivent des vrais cauchemars parce qu'ils se brûlent, ils s'en vont. Donc l'idée, c'est de savoir jusqu'où on peut descendre dans le... Alors, c'est tout le problème des syndromes de stress post-traumatique. Jusqu'où est-ce qu'on peut descendre dans le contrôle de la phobie, mais il ne faut pas la faire disparaître complètement. Parce que la personne qui a été violée, machin, il vaut mieux qu'elle garde dans une part de son cerveau que ce n'est pas bon pour la santé. Et les phobies, c'est embêtant quand ça envahit le champ de la conscience, mais ce n'est pas embêtant quand vous les mettez dans votre coin et que vous en servez dans des situations d'urgence. Vous voyez un serpent, vous partez en courant, et bien tant mieux, vous avez la phobie des serpents, parce que c'est exactement comme ça qu'il faut agir. Donc c'est particulier, la phobie, parce qu'il ne faut pas tout retirer, quoi. Il faut pas aller. L'objectif de, je ne sais pas ce que tu en penses, Chantal, il faut pas rendre les gens inconscients des dangers et de. Les phobies, c'est très utile. Il faut avoir un bon catalogue de phobies adapté aux situations de la vie de tous les gens. Tous les jours. Si vous êtes inconscient du danger, vous allez terminer en plâtre, dans le coma, ou perdre la vie. C'est ça le truc.
Et par rapport aux situations gravement traumatisantes dont vous parliez, jamais en hypnose on oublie. Enfin, on peut créer des amnésies, mais dans des circonstances très très particulières. Ce qui se passe, c'est qu'on réorganise les affects, on réorganise la perception de l'événement. Ça crée, pour les cas dont vous parliez, éventuellement un phénomène de résilience qui permet à la personne d'utiliser ce qu'elle a vécu pour en faire quelque chose de plus. Mais il ne s'agit jamais d'oublier, de toute façon.
On sait effacer la mémoire, c'est les électrochocs, on efface la mémoire, mais la mémoire à court terme est récente. Par contre, les souvenirs anciens, on les garde, et ça, on ne peut pas faire grand-chose pour toucher à cette mémoire-là. Par contre, quand ça envahit votre vie de tous les jours, c'est là qu'il faut intervenir. Quand ça donne des atrophies de l'amygdale, comme on voit chez les grands dépressifs ou dans les syndromes de stress post-traumatique, où les gens ils sont obsédés toute la journée, tous les jours, parce qu'ils sont vécus, là, évidemment, il faut faire quelque chose. Et aider aux gens effectivement à retrouver leur neurogénèse au niveau du copain.
Parce que je ne vais pas vous dire exactement oublier au sens propre du mot, mais au sens que ça ne gêne plus la vie quotidienne.
C'est ça.
Parce que
c'est exactement ça.
On a connu une personne qui, je ne sais pas, qui voyait quelqu'un en uniforme de policier. Ouais. Cette personne-là tombait en syncope parce qu'elle a vécu sous le fascisme, les tortures. Ça gênait à la vie de tous les jours.
Ouais. Dans le stress post-traumatique, plus on intervient tôt, plus c'est efficace. Mm-hmm. Mais après, moi, je crois qu'il faut éviter les transferts aussi. Le stress post-traumatique apparaît quand on a l'impression de mort imminente soi-même. Le patient, il a l'impression qu'il va être tué. Hein, donc ça, c'est plus quelque chose... Bon, il y a des trucs culturels, bon, je reviens sur la Shoah et tous ces trucs-là. Si la personne a vécu vraiment la mort imminente, elle risque d'avoir un stress post-traumatique. Si elle voit un film, elle dit « Bon, je suis d'origine juive et ça s'est passé », c'est pas la même chose. Donc dans les stress post-traumatiques, par exemple, le jeune garçon qui a été bouffé par les trois chiens l'année dernière, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, bon, moi je l'ai pris en charge 4 jours plus tard, en réanimation. Et donc le but, c'est de le dissocier par... En fait, pourquoi est-ce qu'on m'a demandé de le voir? Parce qu'en fait, dès qu'il a été décédé en réanimation, il mettait son bras qui avait été complètement bouffé, il s'est protégé pour éviter que le chien lui bouffe le visage. Donc le bras était vraiment complètement déchargé, et il avait des sursauts, il mettait son bras devant ses yeux. Et donc les réanimateurs m'ont demandé de le prendre en charge, et j'ai utilisé des tests, une technique de dissociation. Et je ne savais pas si cette technique de dissociation, ça allait être efficace au bout d'une fois, ou de 2 fois, enfin je l'ai vu 4 jours plus tard, il m'a dit les chiens m'en mettent plus. Et donc j'utilise des techniques comme ça pour les gamins qui passent sous des manières, ou des choses comme ça. Une de mes patients qui passait sous un train. Mais bon, on vit une mort imminente.
Je connais quelqu'un qui s'est formé à l'autopsie émotionnelle. Il disait, au fond, c'est très proche de la méditation. Et donc, il séparait ça évidemment de la perception commune, vulgaire, de l'accompagnement de l'hypnose. Et puis, les patients que vous montriez tout à l'heure, on a l'impression qu'ils sont quand même dans un état du sommeil à proprement parler. Qu'est-ce qu'on met au bout du compte derrière ce mot? Quand est-ce qu'on estime que la personne est sous état hypnotique, aujourd'hui j'entends, par rapport à toutes les pratiques qui ont pu exister, jusqu'au plus spectaculaire?
C'est une très bonne question, on fait un cours spécifique là-dessus, sur le cerveau des méditants. Alors il y a des points communs, ils sont assis, ils ont les yeux fermés, on a l'impression qu'ils dorment. Que vous prenez quelqu'un pendant une séance d'hypnose ou pendant une méditation, c'est extérieurement c'est pareil. Donc pour les reportages télé, pas beaucoup d'intérêt. Souvent ils amènent un truc un peu.
Il y a des sujets hypnotiques qui bougent beaucoup.
Oui, mais enfin, la séance d'hypnose, souvent, c'est un peu décevant quand même quand vous filmez l'extérieur. Et le méditant, pareil, vous ne comprenez pas trop ce qui se passe à l'intérieur de votre cerveau. Les neurosciences montrent que c'est deux choses différentes, deux choses séparées. C'est deux techniques d'apprentissage complètement différentes. Dans un cas, c'est 10 ans d'entraînement minimum, plusieurs heures par jour, pour arriver à quelque chose. Dans l'autre cas, vous prenez quelqu'un dans la rue, vous pouvez faire de l'hypnose comme ça au bout de 10 minutes sans qu'il connaisse rien du tout. C'est deux modes de fonctionnement du cerveau différents et avec des bénéfices propres à chaque technique. Mais extérieurement, on a l'impression que les gens y dorment, ils sont là. Puis l'hypnose, pareil, filmer quelqu'un qui fait sa séance d'auto-hypnose, on a l'impression qu'il roupille.
On peut le faire avec les yeux ouverts, debout, si l'auto-hypnose.
Voilà.
On peut le faire dans le métro.
Et la méditation, les gens disent aussi que les experts méditants font dans le métro, debout, en marchant, etc. Ça finit par occuper toute leur vie.
Pour parler de la caméra en matière d'hypnose, les gros plans à la caméra sont extrêmement utiles pour repérer les réactions non verbales des sujets hypnotiques qui sont apparemment peu audibles. En fait, il y a une multitude de choses et ça peut être très intéressant.
Voilà, ce qu'on n'observe pas en méditation.
C'est donc l'auto-hypnose, c'est plus proche de la méditation, vraiment.
C'est à part, hein, c'est deux trucs différents, deux modes de fonctionnement différents. Il y a certainement des points communs. Il y a des points communs, mais c'est deux choses. c'est riche, hein, le cerveau humain, tout ce qu'on peut faire avec un cerveau humain, il y a beaucoup de choses. Hein, donc là, c'est un peu la richesse de tous ces états de conscience, toutes ces formes de conscience normales. Hein.
Au niveau du cerveau, donc, sont des parties différentes qui sont activées en méditation, oui. Lesquelles en méditation et lesquelles en hypnose ou hypnose?
Alors en fait, il y a des études, et l'hypnose, il n'y a pas de modification de l'électroencéphalogramme, alors qu'en méditation, vous avez des modifications de l'électroencéphalogramme. Il y a une chose importante, c'est que les gens qui sont testés en neurosciences pour la méditation, c'est des grands experts en méditation, 10 000 heures ou 30 000 heures de méditation derrière. Donc en hypnose, on n'a jamais des gens qui ont fait 10 000 heures ou 30 000 heures derrière. Donc on ne parle pas du tout des mêmes catégories de personnes, c'est des experts, des sages, hein, des gens qui sont des lamas très, très respectés en général chez les bouddhistes par exemple. Et les études dont on dispose, c'est sur le volume cérébral, donc il y a des volumétries qui ne sont pas pareilles chez les méditants que dans le reste de la population. Pour des tâches mentales aussi, les méditants arrivent à faire des choses, alors en hypnose ça n'a pas été testé donc je ne pourrais pas trop répondre, mais ils sont capables de faire des choses avec leur cerveau que le reste de la population n'arrive pas à faire. Par exemple, la rivalité binoculaire. C'est quand on vous met des lunettes et puis on vous projette deux images différentes dans chaque œil. Vous voyez là ce que ça peut créer comme un conflit?